à mon grand soulagement, sans parler de celui de son écuyer, je finis donc par fléchir le paladin et ses emballements justiciers. On s'écarta prudemment de la route pour gagner le couvert d'un bois, où l'on finit par dénicher une cabane de charbonnier abandonnée. La bicoque s'affaissait dans une langueur miteuse, mais au moins on s'était dégoté une planque à l'abri de la soldatesque. Kéan avait suivi le mouvement, avec la mine boudeuse du gamin à qui on a interdit de sauter à pieds joints dans les flaques. Je ne parvenais toujours pas à cerner le lascar. Me jouait-il la comédie du preux contrarié? Dans le fond, bien content que je l'ai dissuadé de singer les redresseurs de tort. Où se prenait-il au sérieux? Mais, moins couillon que j'avais pu le croire, avait-il reconnu le bien fondé de mon baratin? En tout cas, une fois posé dans notre taudis, je saisis une autre raison bien moins noble qui l'avait poussé à se risquer dans le bled mis à sac. Son écuyer et lui, il n'avait plus rien à becquer. Ces deux gaillards traînaient une petite fortune en armes et en chevaux, mais avaient dévoré leur dernier quignon pendant le casse-croûte de midi. Ils avaient coutume de réclamer l'hospitalité chaque soir, là où la route les menait, et voyageaient donc logés, nourris, lavés à l'œil par l'habitant. En somme, à quelque politesse près, Kéan ne valait pas beaucoup mieux que les pillards qui l'avaient tant scandalisé. En attendant, constatant que sa gibecière était vide, le paladin se souvint de mon cadeau. Alors que le jour tirait vers le crépuscule, il partit donc à la chasse avec mon arbalète, égara 4 ou 5 carreaux dans les buissons, avant de revenir bredouille, plus vexé et affamé que jamais. De mon côté, j'avais lesté le fond de mon baluchon avec 2 pâtés en croûte, une grosse miche, ainsi qu'un petit paquet de salaison et de fromage. Toutefois, l'expérience du vétéran qui m'avait fait constituer ces provisions me déconseillait aussi de les partager. Si Kéan avait dévoré mes réserves pour se faire tuer le lendemain, non seulement j'aurais dû me débrouiller seul, mais je me serais retrouvé à court de vivres. Cette nuit-là, ce fut donc disette. Le lendemain matin, il fallut bien traverser Tafarnin pour accéder au pont. Comme je l'avais prévu, la soldatesque avait vidé les lieux après avoir vidé les celliers. Quelques masures étaient parties en cendres, beaucoup avaient perdu leurs portes au cours de réquisitions un brin vigoureuses. Un vandalisme plus festif que criminel, somme toute. Du moins, à très grands traits. On ne vit que 3 ou 4 cadavres. Quelques fossoyeurs du culte du desséché nous avaient précédés avec leurs charrettes et commençaient à relever les dépouilles. Ces corbeaux-là ne perdaient pas de temps. On passa au large de la carriole, plus incommodé par les charretiers que par les morts. Sous un capuchon noir, je crus reconnaître une sale gueule de bigleux. Il me semblait bien l'avoir croisé à Lindinas. Décidément, ces charognards avaient du nez pour humer d'aussi loin un peu de bidoche fraîche. Le chevalier avait quand même endossé le harnois et son écuyer s'était également armé. De mon côté, je ne me sentais pas très à l'aise sur ma rosse, peu enclin à tirer l'épée dans un équilibre précaire. Bien que les soudards aient disparu, on pouvait toujours craindre une réaction hostile des gueux, au cas où ils nous auraient pris pour une arrière-garde. La plupart fuirent devant Kéan, son armure et son destrier caparaçonné. Quelques rustos nous jetèrent des regards noirs. Comme cet accueil était plutôt frais, on s'abstint de mendier un anka. De toute façon, il ne devait plus rester un œuf vaillant dans le bled. On quitta donc Tafarnin en serrant d'un cran nos ceintures. Une petite pluie vint nous cueillir comme on passait la rivière. L'humeur était plus que morose dans notre bande. Notre chemin s'incurvait peu à peu vers le sud-est. Entre 2 averses, les éclaircies nous dévoilaient une campagne printanière, quadrillée de haies et de bosquets. Au loin, les versants de hautes collines retenaient les nuages de pluie. Je croyais reconnaître ce massif. En venant de Carwell, l'armée ducale l'avait contourné par l'ouest. Il me semblait que Kéan m'en faisait faire le tour pour aborder ses versants orientaux. Malgré le mauvais temps et la fringale qui nous creusait le ventre, je pris sur moi pour rouvrir la conversation. j'avais tout intérêt à prendre des repères, en particulier si je perdais mes guides. Et je les perdrais tôt ou tard. Quand j'aurais adressé à l'ex-duchesse les bons baisers de la nouvelle, il me faudrait des carrés en vitesse par mes propres moyens. Kéan se fit un peu tirer l'oreille pour sortir de sa bouderie. Il avait toujours notre prudente dérobade de la veille sur la conscience, avec une sévère dalle en prime. Avoir la dent, ça ne rend personne aimable. Moi, pas plus que les autres. Surtout que je salivais en pensant à ce qui se trouvait dans mes fontes. Mais enfin, il fallait que je me situe pour la suite des opérations, et avant tout pour le salut de ma pomme. J'y mis donc du mien. À force de relance, les bonnes manières de Kéan reprirent le dessus, et il me refit la causette. En fait, il s'avéra être un guide assez médiocre. Il connaissait peu la région, n'y ayant que récemment voyagé. Comme il était originaire de Belestance, à l'autre bout de Bromel, les chemins que nous suivions ne lui étaient guère familiers. Il se contentait de remonter la route qu'il avait suivie en compagnie de Blancandin depuis le château de Verre. Ce qu'il me peignait était confus, l'émiettement des fiefs bromalois n'arrangeant rien à l'affaire. Si les terres que nous traversions dépendaient des finages de Tafarnin et de Kercapel, deux territoires du comté de Kimark, elles se trouvaient imbriquées dans des fiefs ducaux. Au sud, la baronnie de Kerlund formait une enclave vassale de Bromel à l'intérieur du comté, tout en défendant une partie de la vallée de la Claye. Au nord-est, au-delà du château de Kercapel, nous rejoindrions également le duché. Du moins en théorie, car Vert, apanage ducal, venait probablement d'entrer en rébellion, s'il donnait refuge à l'ex-duchesse. Pour ne rien simplifier, Kéan m'expliqua de façon embrouillée que notre destination était en fait une co-seigneurie. Le culte du desséché y possédant un vaste sanctuaire enclavé dans le fief séculier. Si le château avait pris les armes contre l'autorité ducale, il était difficile de savoir pour qui penchaient les dessicatoriens. Dépendaient-ils de Vert ou de Bromel? Respecteraient-ils leur hommage? Avaient-ils seulement décidé de se mouiller dans la querelle? Kéan n'en avait aucune idée. Vers le milieu de la matinée, les bâtiments d'une ferme forte se détachèrent dans les verdures pluvieuses. Un détour nous mena devant l'entrée de cette ferté, qui nous opposa toutes les têtes de clous de sa porte. Un guetteur soupçonneux, moitié sergent, moitié valet de labour, nous enjoignit du haut d'un mur de passer notre chemin. Malgré les politesses du chevalier, il refusa obstinément de nous ouvrir. Il se défiait de la bande qui venait de dévaliser Tafarnin, et au regard suspicieux qu'il me jetait, trouvait sans doute que j'avais la gueule d'un voleur de poules. Pour se débarrasser de nous à peu de frais, les rustiques consentirent cependant à nous ravitailler. Par le guichet de la porte, ils nous firent passer une demi-miche, un gros morceau de lard et trois petits pâtés en croûte. Cette rançon nous dédommagea largement de leur incivilité. On repartit un peu plus loin, à l'ombre d'un bosquet, pour dévorer ce tribut. Kéan, dès la première bouchée, pardonnait au rustre. Il supposait que le chevalier dont il dépendait avait rejoint l'armée du comte avec ses gens de guerre. En leur absence, les gueux se sentaient à la merci des premiers routiers venus. Ce petit casse-croûte nous revigora joliment. Moi en particulier. Tenant à s'excuser d'être rentré bredouille de sa partie de chasse, Kéan insista pour que je termine les reliefs du pique-nique. Je ne me fis pas prier. Après tout, cela flattait l'altruisme du paladin et satisfaisait mon appétit. Tout le monde y trouvait son compte. On reprit donc la route dans de meilleures dispositions. Malgré mes fesses un peu tallées, je commençais à m'habituer à Amiette, et la jument s'était résignée à me porter là où la conduisait le destrier du chevalier. L'estomac plein, le jeune preux avait à peu près oublié la mésaventure de la veille et se remettait à parler avec volubilité. Grâce à ces bavardages que j'encourageais avec les plus grandes marques d'intérêt, je continuais à lui tirer les vers du nez. J'appris donc pas mal de choses sur la destination de notre virée. Ces informations se révélèrent cruciales et, à vrai dire, tout à fait décourageante. En jouant les badauds, j'interrogeais d'abord mon guide sur le château de Verre. Kian se montra intarissable à ce sujet. Il me vanta la puissance et l'ancienneté légendaire de la place forte, me rappelant que Verre était célèbre grâce à la chanson des Preux. Au milieu des contes héroïques de la chanson de geste, il me glissa de façon décousue des renseignements plus immédiats et plus utiles. Pour commencer, la forteresse n'était pas bâtie au voisinage du bosquet du desséché, mais au beau milieu de celui-ci. Et d'après ce que me laissait entendre le paladin, la nécropole s'étendait sur une superficie très vaste. Les futaies y tenaient davantage de la forêt ténébreuse que du carré tombal. Cette cohabitation funèbre me chiffonnait. Il va sans dire que je me fichais de ces bois comme de ma première paire de chausses. Kéan me disait d'ailleurs que chemins et allées y étaient bien tracés. C'étaient leurs habitants qui m'inquiétaient, non les défunts, dont j'avais finalement pas mal de pratiques, mais les croque-morts. Au sein de la prêtraille du desséché, il n'y a pas que des embaumeurs et des fossoyeurs. On trouve aussi des juristes qui tiennent les registres obituaires et règlent les litiges successoraux. Ils peuvent être secondés d'inquisiteurs quand ils flairent quelque chose de louche dans le testament ou les derniers instants de leurs clients. Certains d'entre eux sont des augures qui, tout en habillant leur rituel de noms pieusement corrects, usent de nécromancie pour faire parler les tombeaux. On comprendra aisément que, vu mon fonds de commerce, ces calotins me soient insupportables. Chaque fois que je croise un de ces corbeaux, j'ai l'impression d'être démasqué. Malgré moi, je soupçonne la maréchaussée prête à me tomber sur le paletot au prochain coin de rue, pour me servir un plat de ferraille et me confronter à tous les cadavres enfouis dans mes placards. Alors, exécuter un contrat au beau milieu d'un cimetière, et même du cimetière le plus huppé du duché, cela avait de quoi me gêner aux entournures. Et il y avait pire. En s'émerveillant de la puissance du château, Kéan ne faisait que renforcer mes alarmes. Verre se trouvait bâti sur trois îles au milieu d'une rivière. Pour y entrer, et surtout en sortir, il fallait franchir deux ponts, entre lesquels s'érigeait une barbacane aussi solide qu'un fortin. Rien que pour circuler entre la cour et l'extérieur, il était nécessaire de passer trois portes renforcées de herses et surveillées par des plantons. Ça compliquait pas mal la décarade. Le tableau se fit encore plus réjouissant quand mon compagnon me vanta la hauteur des murailles, qui plongeaient à pic ou peu s'en faut dans la rivière. En plus, comme le flot chutait un peu plus bas dans un gouffre, le courant y était puissant et la baignade pas spécialement conseillée. Évidemment, j'aurais pu soupçonner le jeune preux d'en rajouter, afin d'en mettre plein la vue aux pèlerins tchoudaliens. Malheureusement, je ne me souvenais que trop ce qu'avait dit le connétable au cours du conseil de Carwell, que l'armée ducale mettrait des mois à réduire ce château. Même si Kéan brodait un peu, la bicoque ne devait pas moins avoir de sacrées défenses. Une seule chose me mit un peu de baume au cœur dans ce petit chapitre géographique. Verre se trouvait dans la vallée de l'Andoune. Le nom de la rivière sonnait familier à mon oreille. Et je finis par me rappeler que Carwell était bâti à son confluent avec le Vernobre. Lorsque j'aurais besoin de filer, il me suffirait de descendre le cours d'eau pour revenir en territoire connu. La balade ne serait pas sans difficulté. Kéan me raconta que l'Andoune disparaissait sous terre peu après le château et ne remontait à l'air libre qu'à plusieurs lieues. Mais enfin, je battrai la campagne pour retrouver sa résurgence, puis je longerai ses rives. Dans la ville du Cal, ce serait bien le diable si je ne trouvais pas une coque de noix pour rejoindre Longomore. Et de là, je me débrouillerais pour embarquer sur un navire de guerre de la République ou une galéasse de commerce. Au moins, je disposais d'une solution de repli. Mais pour en bénéficier, encore faudrait-il que je sois en mesure de fuir la place forte. Je cherchais également à en apprendre davantage sur les châtelains. Au sujet de la duchesse répudiée, à laquelle je devais présenter de si pressants hommages, j'en fus pour mes frais. Kéan prétendit être trop jeune pour avoir fréquenté la cour ducale quand la suzeraine la régentait encore. À l'époque, il n'était qu'écuyer à la cour de Belcastel. En revanche, il se montra prolixe sur le seigneur de Vert, sa régulière et leur coterie. Le paladin loua les vertus de tout ce beau monde à m'en faire périr d'ennui. Tout un chacun était élégant, courtois, large. Je voulus croire qu'il faisait une plaisanterie salace, mais il ne parlait que de générosité. Il me peignit la société de Vert comme une cour de contes de fées. Je crus néanmoins flairer je ne sais quelle réserve dans son discours sur le seigneur. Comme je l'entreprenais sur le sujet, il finit par convenir que Méléagant de Vert pouvait aussi se montrer impitoyable. Il avait fait pendre de sang-froid deux de ses familiers, dont son ancien précepteur, parce qu'il les soupçonnait de renseigner le duc. Je n'eus pas trop de mal à apparaître aussi choqué que le chevalier. Certes, le fils du duc pouvait brancher autant qu'il lui plaisait, c'était après tout un privilège de naissance, et cela ne m'émouvait guère tant que j'échappais au collier de chanvre. Mais cette histoire de pendu me rappelait le conseil de guerre à Lindinas, où le chancelier Diachekrimen avait évoqué ses espions qui ne lui donnaient plus signe de vie. Forcément, il venait d'épouser la veuve. De toute évidence, Méléagant était sur ses gardes et avait purgé son entourage. Jusqu'à présent, il avait toujours conservé un ou deux coups d'avance sur son père. Ce prince-là était un vrai marle. Ça n'allait pas être simple d'embobiner le client. Le chevalier continuait à pérorer sur la cour de Vert, mais je ne lui prêtais plus qu'une oreille distraite. Un écuyer qui récitait de la poésie, une dame qui montait en Amazone, des nobles fous de chasse, une écurie à tomber par terre et 10 autres niaiseries. Kéan enfilait les perles comme une demoiselle de compagnie. Derrière ces enluminures pour mondaines, je pressentais une petite faction orgueilleuse, rouée, dure et retorse. L'affaire serait tout sauf une promenade de santé. Au moins, on trouva meilleur gîte que la veille au terme de cette étape. Kerkapel était un petit fort perché sur une motte herbue qui surveillait les dernières terres cultivées à l'orée d'une grande forêt montant à l'assaut des collines. Château plus trapu qu'élevé, ses murs respiraient une sévérité presque monastique. Des bas-reliefs usés représentant le soleil de Léomance étaient encore visibles sur quelques linteaux et sur les clés de voûte de certaines salles. La place avait visiblement été une commanderie de l'ordre du Sacre par le passé. Peut-être à l'époque de la guerre des grands vassaux. Elle était en tout cas retombée dans le domaine comtal, car nous y fûmes accueillis par un vavasseur de Kimark. Il n'y avait pas grand monde dans ce castel. On aurait pu compter les effectifs de la garde sur les doigts d'une main. Et encore, en y intégrant une baderne hors d'âge et un valet d'armes aux joues de petits garçons. Anguzel de Kimark avait manifestement vidé la garnison pour son tournoi et pour la guerre. Il était heureux que Kéan y ait déjà fait étape avec le chevalier de Froek, qui semblait estimé par les gardiens, sans quoi nous aurions eu du mal à montrer patte blanche. On fut convenablement reçus. Pendant le souper, Kéan prit grand plaisir à amuser ses quelques soudards avec son récit du tournoi. Incidemment, il voit aux gémonies le perfide Coutillier qui avait grièvement blessé son ami le chevalier de Vaumacel. Cela me consola un peu que Vaumacel ait bien trinqué. Je ne l'avais pas complètement raté. Pour le reste, je ne prêtais pas grande attention aux hâbleries du paladin. Je ruminais tout ce qu'il m'avait appris, et ça ne me portait guère à l'optimisme. Malgré la fatigue du voyage et mes reins moulus par la selle, j'eus ensuite le plus grand mal à fermer l'œil. Le lendemain soir, nous arriverions à Vert. Or, tout ce que j'avais appris sur notre destination, sans parler de ce que j'en devinais, accumulait les difficultés. Tout d'abord, le prétexte invoqué pour approcher de l'ex-duchesse me paraissait de plus en plus cousu de fil blanc. Certes, ce n'était pas la première fois que je jouais les émissaires pour le compte du patron. Je saurais parler avec assurance et improviser un char en m'inspirant des propositions à tiroir dont il était coutumier. Avec la plupart des gens, mon bagout aurait fait l'affaire. Mais qu'en serait-il de Méléagant de Verre? Il avait démasqué les espions à la solde de son père. Il avait baladé à peu près tout le monde, en faisant croire qu'il briserait des lances à Lindinas, alors qu'il préparait l'évasion de sa mère. Dans l'entourage de Ganelon, il n'y avait pas que des imbéciles. Chacun à leur manière, le chancelier, le connétable ou le baron de Maginois, me semblaient être des gaillards plutôt affûtés. N'empêche, le fils du duc les avait tous bernés. Et moi, j'allais débarquer avec ma tronche couturée, mes chailles en or et mon accent choudalien, en assurant juré craché que je venais animer des meilleures intentions du monde. Ça n'allait pas le faire, pas avec un matois de cette envergure. Ça risquait d'autant moins de le faire que j'avais du mal à me couler dans les usages de la haute noblesse bromaloise. À l'exception notable du bâtard, la plupart des chevaliers que je fréquentais me tapaient sérieusement sur le système, de l'Aulnay et Kéan en tête. L'impopularité dont je jouissais à la cour ducale était sinistrement révélatrice. Je ne maîtrisais pas les codes. Je ne jouais pas le jeu. Je sentais trop la roture. Évidemment, Clarissima m'avait gentiment savonné la planche, et ça n'avait pas arrangé les choses. Mais je me serais dangereusement leurré si je lui avais attribué l'entière responsabilité de ma défaveur. Je n'étais pas de leur monde, à ces belles garces et ces gentils cogneurs. Même en ayant acquis mes entrées chez le fin du fin du patriciat choudalien. Et la cour de Ganelon, contrainte et forcée, était favorable à Choudalia. À Verre, je paraîtrais toujours aussi ballot au milieu d'une société farouchement hostile à la famille Ducatore. J'aurais le plus grand mal à approcher ma cible. En fait, j'aurais le plus grand mal à entrer dans la place. À moins, bien sûr, qu'ayant flairé de loin le sicaire, on ne m'ouvre poliment les portes pour mieux me coincer au fond de la souricière. Dans cette affaire, il était évident que Clarissima Ducatore courait deux lièvres. Sous couvert de compensation du ratage de Vaumacel, elle rejouait la même perfidie. La petite duchesse m'avait dans le nez. Elle me soumettait des contrats où je risquais gros, en se disant que, quelle que soit l'issue de l'entreprise, elle y gagnerait quelque chose. Soit je menais l'entreprise à son terme, et elle se retrouvait débarrassée d'un gêneur ou d'une rivale politique, soit je me faisais pincer, et le traitement qu'on me réserverait alors la vengerait de notre querelle d'amoureux. L'idéal pour sa gracieuse altesse étant sans doute que je me fasse refroidir en trucidant ma cible. Coup double. Elle en battrait des mains de ravissement. Vu sous cet angle, d'ailleurs, je comprenais mieux sa colère après le tournoi. Non seulement Vaumacel avait survécu, mais j'avais eu aussi le mauvais goût de m'en sortir. Échec sur toute la ligne. Quelle amère déception. Il fallait réparer cela au plus vite. Voilà pourquoi elle m'avait envoyé à Verre. Réflexion faite, il paraissait clair qu'elle m'avait expédié dans un coupe-gorge encore plus mortel que le tournoi. Comment me tirer de ce mauvais pas? La question devenait pressante. Le lendemain, j'arriverais au pied du mur. Le plus simple aurait été de me déballonner et de filer rejoindre Cesarino dans l'entourage du duc. Comme ça, j'aurais pu y prendre bien peinard ma petite part à la guerre contre les Ouromans. Mon absence était sans doute passée inaperçue dans le conseil ducal. Quant à Clarissima, rentrée à Carwell, je ne l'aurais pas eu sur le dos pendant qu'on se serait étripé pépère avec les hordes barbares. Évidemment, ma désertion risquait d'envenimer mes rapports avec la duchesse en titre. Mais vu qu'elle essayait déjà de m'envoyer à l'abattoir, ça ne pouvait pas se dégrader beaucoup plus. Restaient deux problèmes. Pour commencer, mon fil à la patte, le preux chevalier ivorin de Kéan. Je me voyais mal lui raconter que, bon, finalement, j'avais changé d'avis et que la ci-devant duchesse Odéhard, le seigneur de Verre et sa charmante épouse, se passeraient de mes civilités. que Kéan soit un authentique couillon ou un collègue de la guilde, il ne me laisserait pas faire. Le chevalier servant refuserait tout net de trahir une fois de plus la baronne de Brégor et sa trop jolie nièce. Quant au chuchoteur, on me l'avait à coup sûr adjoint pour s'assurer que j'exécuterais proprement le boulot. Après quoi, il m'était plus difficile de deviner par quels moyens il m'aiderait à disparaître. Dans tous les cas, il allait s'opposer fermement à mon caprice, et il serait difficile de lui échapper. Après tout, je montais, fort mal, un de ses chevaux, et même si je lui volais l'aimable Amiette, il ne faudrait pas longtemps au champion de joute pour me rattraper. Certes, je pouvais toujours trouver un moyen ou un autre pour disposer du gêneur, mais se posait alors un deuxième problème, autrement épineux. Décevoir les attentes de Clarissima, cela signifiait transgresser les directives du podestat. Le patron avait été clair. Il m'avait envoyé me rabibocher avec la duchesse afin de faciliter sa réconciliation avec sa fille. Elle en était parfaitement consciente et me l'avait fait comprendre. Reculer devant l'obstacle était donc impossible. Non seulement cela aurait suscité la réprobation du grand homme, mais cela aurait aussi pu me valoir une explication avec la guilde, qui se serait inquiétée que je sorte du cadre. Ce genre de mise au point incluant souvent quelques professionnels, un couteau, une aiguille à coudre et du gros fil, mieux valait ne pas trop approfondir dans cette direction. Je me retrouvais bel et bien acculé. Il fallait honorer le contrat. J'étais contraint de gagner vert. La tête farcie de soucis, j'eus donc le plus grand mal à fermer l'œil lors de cette nuit à Kerkapel. Je me tournais et retournais sur ma paillasse au rythme où tourbillonnaient mes idées. Des idées noires, boursouflées et grosses de menaces, où je peinais fort à trouver la moindre éclaircie. J'avais beau combiner des bribes de stratagèmes et peaufiner mon baratin, je ne parvenais pas à me voiler la vérité. Dès que j'aurais mis les pieds à verre, les chances joueraient contre moi. Sauf dans l'hypothèse hautement ironique où Odéard des Méléagans aurait décidé de se réfugier dans un autre repère. Mais je ne serais pas sorti de galère pour autant. On aurait pu croire que j'avais cherché à me dérober à mes obligations, et il m'aurait fallu malgré tout dénicher la rebelle. Arpenter les places insurgées du duché en compagnie de mon ami Kéan. Plaisante randonnée. Et au final, l'accueil risquait toujours d'être frais. J'avais de quoi me ronger les sangs. Je me les rongeais si bien que les tracas ne me lâchèrent pas quand je finis par piquer un petit somme. De retour à Tchoudalia, je descendais les ruelles de Torresella en direction du port. Quel soulagement, quelle joie d'être rentré à la maison, de baigner dans l'air du pays. Seulement, très vite, mon bonheur s'étiolait, contaminé par l'inquiétude. Quelque chose clochait en ville. Il y faisait drôlement sombre, une nuit si noire et si silencieuse que mon comparse était forcé de nous éclairer avec un lumignon. Bizarre loupiote d'ailleurs, ce n'était ni un flambeau ni une lanterne, mais une très ancienne lampe de terre cuite. Sa flamme, parfois couchée par l'élan de la marche, nous nimbait d'un halo tremblotant de lumière. On y voyait juste assez pour réaliser combien le pavé était poussiéreux, les venelles étroites, les arcades des boutiques obscures. Le quartier privé de ses odeurs familières et de ses haleines marines ne sentait plus que le renfermé et la vieille pierre. Insensiblement, je me fis une raison. Je baguenaudais à la fois en ville et sous terre. Nous arpentions en fait des catacombes décorées à l'antique, probablement celles de Purpuretsa. Mais les fresques écaillées sur les murs représentaient les façades du front de mer, leurs portes et leurs fenêtres ouvrant sur les ténèbres des niches mortuaires. « Nous serons bientôt arrivés !» me disait joyeusement Kéan, car le compagnon qui m'éclairait dans ses venelles de nécropole n'était autre que le paladin. Quoi de plus normal, n'était-il pas mon guide? Il m'a paru assez logique que nous empruntions les catacombes de Purpuretsa. Elles s'étendaient si labyrinthiques et si vastes qu'elle devait forcément communiquer avec celle de Vert. Voilà qui allait me simplifier la tâche. Il suffirait de passer par les caves pour exécuter le contrat puis pour disparaître. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt? Heureusement qu'on m'avait adjoint ce confrère. « Nous y sommes presque !» m'encourageait Kéan. « Le souper va être servi !» Il avait raison. Ce coin de rue me disait quelque chose. À ceci près qu'étant peint sur les parois d'une vieille galerie, éclairée de façon trop fugace, je ne parvenais pas vraiment à me situer. Ce ne fut que lorsque la flamme révéla l'enseigne des Doués de Charliéré, qui barrait bizarrement le corridor d'Hypogée, que je crus m'y retrouver. J'étais bien via Mala, du côté des abattoirs, à deux pas de l'arsenal. Kéan s'effaça poliment pour me laisser entrer dans la taverne. Manifestement, il était bien informé. Il savait que l'établissement était sous ma protection et se gardait de commettre un impair. La porte du sépulcre n'était pas beaucoup plus basse que celle de l'auberge. À l'intérieur, la condensation des espaces urbains et souterrains était plutôt bluffante. Sur les murs du caveau, des bas-reliefs peints représentaient fidèlement l'intérieur du débit de boisson, avec ses vaisseliers, ses tonneaux, ses flacons, son âtre, ses broches, et jusqu'à la porte qui donnait sur l'arrière-salle. Les dalles funéraires faisaient office de table. De nombreux convives y étaient accoudés, dans un silence de plomb, devant des godets entortillés de toile d'araignée. Ces joyeux drilles riaient de toutes leurs dents, osseux, sec et parcheminé, plus vraiment ivre, mais définitivement mort. L'ambiance était un peu morose, mais, ma foi, il y avait pire comme dernier séjour. Le jour venu, tout compte fait, je n'aurais pas été contre qu'on m'y envoie trinquer en paix. « Par ici !» m'entraînait Kéan d'un air mystérieux, en me faisant circuler entre les bancs. Je faisais attention à ne frôler aucun des buveurs. J'avais l'impression qu'un souffle aurait suffi à créer une réaction en chaîne et abattu une rangée entière de ses clients décharnés. Voilà qui aurait été fâcheux pour les affaires. Finalement, le chevalier m'amena vers un convive isolé. Il siégeait à une table dont le plateau était formé par la dalle d'un beau gisant. Le tombeau représentait une grande dame endormie, le front ceint d'un diadème ducal. Le buveur, quant à lui, était tout à fait déplacé. C'était un plébéien assez crasseux, au nez rougi et aux yeux injectés qui puait la vinasse à 10 pas. Il paraissait tout à fait vivant, occupé à baffrer un gros plat de focaccia dont les miettes souillaient les joues et les paupières de l'effigie ducale. En me voyant arriver, le lourdeau releva son gros cul dans un équilibre précaire. « Là, Don Benvenuto !» me salua-t-il avec un débit pâteux. « J'avais tellement les crocs, ça sentait tellement bon, désolé, j'ai pas pu vous attendre. » Au même moment, Kéan me glissait un petit objet rond dans la paume et me chuchotait à l'oreille. « C'est le gourmand. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ?»« Quoi ? Encore ? Ce n'était pas possible. Pourquoi me faire répéter la cérémonie ?» Je l'avais déjà exécuté, j'avais été intronisé, on n'allait pas remettre le couvert. Et ce poivreau de Pidocchiolo, qui ne voyait rien venir, comme s'il ne se souvenait de rien. Quel pochard quand même. Ça ne s'oubliait pas facilement, un banquet pareil. Et comment pouvait-il encore arborer ce gros tarin rubis et ses bonnes joues rouges? Sans parler de cette bedaine. Il était mort, Pidocchiolo. Tout ce qu'il y a de plus mort, aussi raide que le reste de la clientèle. J'étais bien placé pour le savoir, j'avais partagé son dernier repas. Je m'éveillais, le souffle coupé et le palpitant battant la chamade. J'avais encore dans la narine le parfum appétissant de la focaccia avec ses arômes d'huile d'olive et de fromage chaud. Cela me souleva le cœur en une nausée aussi puissante que si je m'étais retrouvé secoué sur une coque de noix en haute mer. Les pulsations affolées de mon cœur tapaient jusque dans l'auriculaire quand serrait l'anneau de commensalité. Le cuivre m'en parut chaud et gluant comme le jour où je l'avais porté pour la première fois. En émergeant des catacombes du songe, j'en eus la certitude, Kéan appartenait à la guilde. Il connaissait Tchoudalia. Il m'avait mené à la cérémonie. Il avait même retrouvé ce pochetron de Pidocchiolo. Il me fallut un moment pour me calmer et me remettre les idées en place. Ce rêve était absurde, bien sûr. Si la cérémonie réelle avait effectivement eu lieu dans l'arrière-salle des doués de Charliere, c'était en revanche le maître assassin Rosso d'Agarella qui m'y avait mené et Don Lezio Dietto qui m'avait remis l'anneau. Kéan n'avait sans doute jamais mis les pieds sur le territoire de la République. Et pourtant, je ne parvenais pas complètement à me départir de l'impression laissée par ce cauchemar. D'une façon ou d'une autre, le noblio me paraissait associé à l'honorable société. J'en revenais sans cesse à cet anneau qu'il portait au petit doigt. Certes, plusieurs détails ne collaient pas. Un jonc en or trop luxueux. Une bagouze enfilée à la main gauche, alors que sa fréquentation m'avait convaincu qu'il était droitier. Et pourtant, malgré ses fausses notes, l'instinct me soufflait qu'il s'agissait bien d'un anneau de commensalité. J'avais entrevu que la bague possédait un chaton. Bizarrement, Kéan le retournait côté paume. S'il s'était agi d'une chevalière, pourquoi en aurait-il caché l'intaille? Et puis il avait fait des mystères d'un air entendu sur cette joncaille. Comme s'il allait de soi entre nous, que mieux valait ne pas en causer. Qui aurait pu prendre une précaution aussi bizarre, sinon un affranchi? Mais est-ce que je pouvais croire réellement que ce couillon de paladin était un commensal? Un confrère de la guilde encore, on pouvait l'admettre. Après tout, il faut se montrer particulièrement faucheton pour réussir dans notre partie. Ses belles manières, son sens de l'honneur et ses scrupules pouvaient être de la poudre aux yeux. De là à monter aussi haut dans la hiérarchie, alors qu'il avait quoi, 20 ans à tout casser, c'était quand même dur à avaler. D'accord, le gaillard n'avait pas froid aux yeux. Il savait cogner et rester ferme en pleine foigne. Mais pour devenir un commensal, on vous demandait bien plus. C'était d'ailleurs à ça que servait la cérémonie. À vérifier que vous aviez cautérisé ce qui vous restait de conscience, que vous seriez capable de faire tout ce qu'exigeait l'intérêt de la guilde. Une drôle de cérémonie, la remise de l'anneau, soit dit en passant. Conviviale, salissante, ouverte à l'improvisation sur certains volets du rite, mais strictement codifiée dans l'esprit. C'était une tradition ancienne qui remontait probablement aux origines jumelles de la guilde et de Tchoudalia. On y reconnaissait d'ailleurs un humour de pirate, ripailleur et sanguinaire. Passer l'épreuve faisait vraiment de vous un arcan. Après cela, nul truand ne pouvait douter que vous aviez l'estomac pour massacrer n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quoi. Pour moi, la cérémonie avait eu lieu dans l'arrière-salle des doués de Charliere, peu après que la guilde avait donné son agrément pour que j'en assure la protection. De la part du conseil muet, c'était une façon de me rappeler qu'on ne m'avait gracieusement accordé qu'un bail qui pouvait être révoqué à tout moment. Je m'étais habillé spécialement pour l'occasion, des sapes quelconques acquises chez un fripier. Pour l'usage que j'en aurais, Don Dagarella m'avait mené au point de rendez-vous. Jusqu'au dernier moment, j'avais ignoré que cela aurait lieu sur mon propre territoire. En entrant dans l'arrière-salle, j'avais eu un coup au cœur en découvrant le vieux Lezio Dietto parmi les invités. Je ne peux pas vraiment dire que je le considérais comme un ami, plutôt comme une connaissance, mais je n'avais aucune raison de lui en vouloir et je craignais que la guilde m'ait mis à l'épreuve en lui offrant le couvert. Il avait sans doute deviné ma réticence. Il me servit un sourire à moitié édenté, d'une bénignité insoupçonnable. Et puis il me serra chaleureusement la main. Sa poigne était drôlement forte pour être celle d'un petit grand-père. J'y sentis aussi un peu de métal, celui de l'anneau qu'il me fourrait discrètement dans la paume et celui de la bague qu'il portait à l'auriculaire. Don Lezio Dietto n'était pas le gourmand. C'était le légat du conseil muet. En 15 ans, jamais je n'avais supposé que le gentil papy, qui prenait le soleil tous les matins sur son pas de porte, pouvait être un dignitaire de la guilde. Cette découverte me secoua joliment. Mais la cérémonie ne faisait que commencer. Il fallait bien se mettre à table. Nous étions 6 à ce petit souper. Les 2 derniers confrères m'étaient inconnus. C'étaient probablement des cagous appartenant à d'autres chapelles, qui portaient sans ostentation leur anneau de commensalité. Tous deux d'un certain âge, le poil plutôt grisonnant. On les aurait pris pour Monsieur Tout-le-Monde dans la rue. Des patrons de pêche ou des boutiquiers ayant acquis une petite aisance. Il fallait y regarder à 2 fois pour découvrir, derrière une expression plutôt cordiale, la prunelle éteinte, le rictus en guise de sourire et la cruauté imprimée dans la patte d'oie ou l'aile du nez. Ils me saluèrent avec un respect débonnaire. Ils avaient forcément entendu parler du carnage du palais Mastigia. Ils paraissaient assez détendus. Je compris que pour eux, vu ce que j'avais déjà commis, le repas ne serait qu'une formalité. Quant au 6e larron, je ne le connaissais que trop. C'était cette grosse outre de Pidocchiolo. Ce minable n'avait rien à faire au milieu d'un aéropage de pointure. C'était donc lui, mon gourmand. Le goinfre ne nous avait même pas attendus. Il avait déjà attaqué le plat de focaccia qu'on lui avait servi. Il parut fort réjoui de voir que je me joignais à la tablée. On ne lui avait pas dit que j'en serais. Dans un sens, j'étais soulagé que Don Nettio Tieto ne soit pas mon mange-tout. Mais découvrir que cette casserole de Pidocchiolo avait été désignée me contrariait quand même. Non que j'aie eu pour lui la moindre amitié, mais on se fréquentait, et je lui lâchais des pourboires à l'occasion. Pidocchiolo n'était qu'un grouillot de bas étage, un raté qui avait sombré dans la boisson. Il avait travaillé quelques années dans une bonne place, charpentier de marine à l'arsenal, mais son vice l'avait mis sur la paille. Les contremaîtres, ne goûtant guère ses retards et ses absences, l'avaient renvoyé. Ensuite, il avait bricolé, manœuvre en cale sèche, portefaix, et même galérien libre quand il était vraiment fauché. Comme il buvait ses maigres paies, il avait dégringolé dans la dèche depuis belle lurette. Il complétait donc ses revenus avec des petits trafics. C'était ce qui avait fini par attirer l'attention de la guilde. J'avais été chargé de le rappeler à l'ordre. Je l'avais donc dissuadé, pas trop brutalement, de marcher sur les pieds des gens influents. Mon indulgence avait été calculée. Ce pilier de taverne qui éclusait tous les rats de la ville basse pouvait faire un mouchard utile. Je le payais donc pour me rapporter des tuyaux. Malheureusement, comme j'avais acquis une solide réputation, ce couillon se croyait devenu important. Quand il avait un coup dans le nez, c'est-à-dire chaque jour à partir de midi, il se vantait d'avoir des relations haut placées. Forcément, ces bavardages, ça ne devait pas plaire au conseil muet. Voilà pourquoi les grands couers avaient décidé d'en faire mon gourmand. Il réglait le problème, me fournissait mon mange-tout, et me signifiait par la même occasion une petite mise en garde. L'avertissement pacté dans la promotion, tout l'esprit de la maison. On se mit à table sans façon, Pidocchiolo à un bout, moi à l'autre, les 4 confrères de l'honorable société entre nous. L'arrière-salle formait un coin retiré, mais pas franchement sûr pour la petite fête qui allait s'y dérouler. La porte qui donnait sur la salle du tripot était ouverte à tout moment pour le service, et le reste de la taverne était bondé. Cela faisait partie de l'épreuve. Il faudrait conclure sans faire trop de vagues. Le repas commença joyeusement. Les confrères de la guilde chambraient Pidocchiolo, qui ne comprenait qu'à demi ses plaisanteries. Puisqu'il pouvait s'empiffrer à l'œil, il souffrait servilement les railleries. Il faisait même un peu le pitre. Ce gros porc me dégoûtait. Finalement, ça me faciliterait la tâche. Il n'y avait pas vraiment de règles pour le début du rituel. Certains commensaux utilisaient la manière forte. Ils cognaient le gourmand jusqu'à ce qu'il accepte d'avaler. Puis ils faisaient passer le morceau avec un seau et un entonnoir. Tout ça manquait un peu de doigté. Et puis la suite du programme serait suffisamment fatigante pour que je m'épargne des efforts inutiles. Comme Pidocchiolo terminait sa première planche de focaccia, je lui proposai un second service, qu'il accepta avec enthousiasme. Quand il attaqua ce nouveau plat, les confrères de la guilde levèrent leur timbale à sa santé en approuvant bruyamment ce gros appétit. La bouche pleine, le gourmand se rengorgeait. Il était content de faire bonne impression à des gens dont il soupçonnait l'importance. « Tu n'es vraiment qu'un gueulard, » ricanai-je.
« Eh, Don Benvenuto, j'ai une belle constitution.
Je parie que tu pourrais digérer n'importe quoi.
Ah, pourvu que ce soit bien arrosé, je suis pas difficile. »
Je lui commandai un nouveau pichet de Colevecchio. C'était loin d'être un grand cru, mais cette bibine restait bien assez bonne pour le sous-l'eau. « Allez, montre-nous voir de quoi t'es capable, » lui lançai-je sur le ton de la plaisanterie. Je posai sur la table l'anneau que venait de me confier Don Lezio Dietto. « Pour me faire plaisir, est-ce que tu la boulotterais, cette friandise-là ?»«
Attendez, vous rigolez, Don Benvenuto. »«
Peut-être que oui, peut-être que non. »« Je voudrais voir si t'as vraiment de l'estomac. » J'alignai un florin à côté de l'anneau. « Et avec cette garniture-là, elle passerait mieux, la bagouze ?» L'œil glauque de Pidocchiolo s'arrêta sur la pièce d'or. Il n'avait pas l'habitude de toucher si grosses galettes. À l'ordinaire, il ne palpait que de la petite monnaie.
« Sérieux, Don Benvenuto ?»«
Sérieux. »«
Ah, mon prince, vous avez l'art et la manière d'ouvrir l'appétit. À ce prix-là, je me ferai à valeur de sabre. »«
Je ne t'en demande pas tant. » Gobe l'anneau et tu auras le jaunet.
Envoyez la dragée, c'est comme si c'était fait.
Les maîtres assassins firent tranquillement passer le bijou d'un bout à l'autre de la table. Cette pauvre buse de Pidocchiolo s'en empara, le brandit comme un camelot qui fait son article, puis le porta ostensiblement à sa bouche. Après quoi, il s'enfila un gobelet de piquette à grosse gorgée. Ayant frappé la table de sa timbale, il ouvrit grand la gamelle pour nous dévoiler une langue bovine, des miettes de focaccia et des chicots déchaussés. La bague avait disparu. Mes quatre collègues se fendirent d'applaudissements et d'acclamations sarcastiques. « T'es vraiment trop con !» lui dis-je en lui envoyant le florin. « Resserre-toi à boire. On va t'aider à faire descendre cette joncaille. » Pour ce qui était de lever le coude, le goinfre ne se faisait pas prier. Les confrères remplissaient généreusement son pot et l'imbécile s'enfilait godet sur godet, cul sec, en poussant de gros soupirs repus sitôt le gobelet reposé. Il se pavanait, le lécheur, fier de sa descente. Au moins il partirait comme il avait vécu, complètement torché. Quand je craignis que les collègues commencent à trouver le temps long, je passai à l'étape suivante du cérémonial. La formule rituelle. Ça suffit, Pidocchiolo. Maintenant rends-moi mon anneau. Le crétin manqua de s'étrangler dans son pot. Et puis gloussa un rire éméché.
Ah ben, elle est bonne celle-là. C'est qu'elle est bien au chaud, votre bagouze.
Pidocchiolo, rends-moi mon anneau.
Écoutez, je suis pas contrariant, Don Benvenuto. Je vais vous la rendre, votre babiole. « Faudra juste attendre qu'elle ressorte avec son godiveau. »
Pidocchiolo, rends-moi mon anneau. Je n'avais pas élevé le ton. En fait, j'avais parlé avec lassitude plutôt qu'avec colère, fatigué d'avance par la suite du programme. Mais, à travers les brumes de l'ivresse, le gourmand finit par comprendre que je ne plaisantais pas. Le rire mourut sur sa lip humide. J'étais à peine debout que la frayeur décolorait ses bajoux. En deux pas, j'avais contourné la table. Le sac à vin n'était plus capable de se lever. Il croisa les bras devant son visage en gémissant. Une pichenette sur la poitrine le renversa de son tabouret. Neutralisé par la boisson, pétrifié par la peur, il ne chercha même pas à se défendre. Quelques tapes sans méchanceté suffirent à lui faire baisser les mains, et puis je lui fis une clé cervicale. Sa nuque craqua. Et il se tut. Il s'affala mollement quand je le lâchai. La pièce était soudain devenue très calme. Rosso d'Agarella se leva tranquillement pour fermer le loquet de la porte. Les trois autres confrères me considéraient d'un air neutre, avec l'expression concentrée de maître artisan évaluant le chef-d'œuvre d'un compagnon. Don Nezzurdietto curait distraitement ses quelques dents avec un couteau qui n'appartenait pas au couvert de l'auberge. D'abord, je récupérai mon florin. Ensuite, je pris le pouls du poivreau au niveau de la carotide. Avec son double menton, pas évident de trouver l'aorte. Je ne sentis que du flasque. Il était bien mort. Ce n'était pas par bonté d'âme que je m'en assurais, mais juste par précaution. La cuisine qui allait suivre serait salissante. J'allais barboter dans le résiné. Mais au moins, s'il était bien canné, le gourmand ne risquait plus de m'éclabousser avec une dernière giclée de sang artériel. Je tirai un de mes couteaux et j'ouvris d'abord le cou de Pidocchiolo. On ne savait jamais, il l'avait peut-être gardé en travers de la gorge, le bijou. Mais Jubot lui épluchait le gosier, pas de bol, l'anneau n'y était plus. Bien obligé de fouiller plus profond. Je fis sauter les boutons de son pourpoint et je déchirai sa chemise. La bedaine blanchâtre émergea comme un énorme champignon. Dans son linge maculé, je crus distinguer de la vermine. En plus, ce sagouin-là était pouilleux. Je pris mon élan et je le poignardai au-dessus du pubis jusqu'à la garde. Et puis, en tirant des deux poings, je l'éventrai jusqu'au sternum. Il était tellement gras que j'eus l'impression de trancher un tas de seins doux. Ensuite, pas bégueule, il fallut bien y mettre les mains. Je lui ouvris tout grand le ventre, et puis j'enfonçai mes pognes à l'intérieur dans le rouleau chaud des boyaux. Je savais exactement où chercher. On n'est pas maître assassin sans avoir quelques notions d'anatomie. Le problème de l'estomac, c'est qu'il se cache en partie sous les côtes. Or, je n'avais pas envie de scier du bois. Il fallait donc passer par la cavité abdominale. Pour commencer, je devais faire de la place. Je sortis une partie de l'intestin comme j'aurais dévidé du câble de marine. Il s'enroulait à gros torrents autour de mes poignets, dans une repoussante odeur de merde. Enfin, le jabot fut bien dégagé. Je m'en saisis à pleine main et je le tirai vers le bas. Mais ce n'était pas facile. Le foie l'accompagnait, et ses abats-là résistaient, lourds et amorphes. À chaque traction, tout le corps frémissait, et Pidocchiolo semblait hocher du chef d'un air étonné. Quand l'estomac fut bien descendu, je l'ouvris d'un nouveau coup de tranchelard. Il s'en échappa un fumet puissant, bouquet de vinasse, de focaccia et d'œufs pourris. Du surin, je touillai ce cloaque, où s'aggloméraient parfaitement reconnaissables des bouchées de galettes et de fromage. Je finis par heurter une petite fève métallique. De la pointe du couteau, je pêchai l'anneau. En me relevant, je le montrai aux confrères de la guilde, qui approuvèrent en silence. Puis, sans même nettoyer la bague, je l'enfilai à mon auriculaire. De toute façon, j'avais les avant-bras dégoulinant de sang et de suc. Mais je n'en avais pas tout à fait fini avec la cérémonie. Restait la dernière formalité, la plus pénible. Je dus regagner ma place et me remettre à table. Et puis, avec le gourmand éventré sous les yeux, l'anneau de commensalité tout chaud au doigt, il fallut terminer ma focaccia, jusqu'à la dernière miette, et sans chipoter, s'il vous plaît. Ce fut seulement quand ma gamelle fut propre comme un sou neuf, que les chuchoteurs me félicitèrent. La guilde m'octroyait ma nouvelle dignité. Après cette petite séance, je mis un point d'honneur à continuer à fréquenter régulièrement la taverne des Due Charliere. Je me chargeais même en personne d'y toucher mon loyer, alors que j'aurais pu déléguer les affaires courantes à un de mes sous-verges. Question de crédibilité. J'avais marqué mon territoire. Je pouvais recommencer n'importe quand. Cependant, je ne poussais pas le principe jusqu'à grailler sur place. Pendant des mois, l'odeur de la focaccia me donna des haut-le-cœurs et le vin de Collevecchio eut un goût de vinaigre. Dans la nuit finissante de Kercapel, je me demandais si Kéan avait eu l'estomac d'aller pêcher son joli hannelet là où j'avais récupéré le mien. Hôte de passage, on nous avait gratifié de paillasses dans la grand salle. À la lueur des braises qui s'éteignaient doucement dans l'âtre, je pouvais deviner le profil du chevalier. Il dormait du sommeil du juste, la respiration profonde, en ayant ramené le dos de la main sur la bouche dans une pose presque enfantine. Pas le moins du monde travaillé par notre prochaine arrivée à Vert. N'était-il qu'un pigeon cruellement dupé par la Brégore, ou un arcan tellement froid qu'il se foutait comme d'une guigne d'avoir à me zigouiller une fois le duc devenu rétroactivement veuf? Dans l'un ou l'autre cas, ça ne changeait pas grand-chose. Il ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour m'introduire dans la place. Et le coup accompli, il y avait fort à parier qu'il me tomberait dessus. Peu avant l'aube, incapable de fermer l'œil, je sortis dans la cour pour vider ma vessie. Je n'étais pas familier des lieux, je me cognais un peu partout à l'intérieur et je fis grincer les portes. Cela réveilla le chenil, quelques chiens donnèrent de la voix tandis que je compissais la muraille. Et ce fut là, frissonnant dans l'air cru de ce coin de campagne, débraguetté et le braquemard à la main, que j'eus une illumination. Ces putains de corneaux qui gueulaient après moi comme s'ils avaient flairé une bête puante, je les aurais embrassés. Mais bien sûr, c'était tellement évident. Comment ne pas y avoir songé plus tôt? Je tenais le moyen d'atteindre ma cible sans entrer dans le château. Je restai un moment à la fraîche, à secouer la dernière goutte tout en m'envoyant affectueusement une ribambelle de noms d'oiseaux. Des chiens et des éperviers, voilà la solution au problème. Dans le flot de paroles dont Kéan m'avait assommé, le détail clé avait failli être noyé. Le paladin m'avait pourtant dit qu'il avait rencontré Méléagan pour la première fois à l'occasion d'une chasse au vol, et que le piaf qui chassait pour les Rupins avait été spécialement acheté pour sa mère. Quant à la Brégore, lorsqu'elle m'avait donné quelques conseils pour bien me comporter dans cette société, ne m'avait-elle pas parlé de chasse? La chasse! Voilà mon ouverture! Ces gens en étaient toqués. La première chose que ferait l'ex-duchesse une fois installée, ce serait sans doute d'essayer son rapace. Elle allait sortir du château, un jour ou l'autre, et plutôt rapidement si elle voulait savourer sa liberté recouvrée. Plus besoin de montrer patte blanche, de franchir 25 piquets de garde, de faire des tours de souplesse dorsale, de grignoter pouce par pouce la distance sociale entre la grande dame et le plébéien parvenu. Suffisait de monter un affût, de surprendre la compagnie et de faire un carton. Quelques tours de manivelle, un arc de fer bien bandé et un coup vite fait. La décarade ne serait pas dépourvue de risques, surtout si une meute était de la partie. Mais ce serait toujours mille fois plus jouable qu'en frappant à l'intérieur de la forteresse. Restait quand même un problème. Mon guide comprendrait difficilement quelle mouche me piquait si je lui demandais de faire une pause dans les bois. Sans compter qu'il faudrait bien que je lui reprenne mon cadeau. C'était une difficulté à régler au plus vite, avant qu'on débarque au château. Mais pas prématurément non plus, pour que j'arrive à bon port sans me perdre en route. Ça méritait réflexion. Si je m'y prenais de travers, une maladresse avec le chevalier pouvait encore faire capoter le contrat. Quoi qu'il en fût désormais, le dilemme était tranché. La méthode m'apparaissait avec clarté. Pour commencer, je devais disposer de Kéan.